toujours parfait. Il n'y a aucune critique qu'on peut dire de Mozart. Tout est parfait à Mozart. On pourrait peut-être dire qu'il utilise trop de croches, trop de demi-croches. Si on les enlève, c'est pas si beau que ça. C'est pas si beau. Je lis ces morceaux et toute la journée, pratiquement, d'abord, je suis plutôt de bonne humeur et je ne peux pas m'empêcher de siffler ça ou de chanter ça toute la journée parce que les paroles sont très belles, très simples et ça affiche un sacré bon moral, quoi. Batti, batti, bel mazzetto, la tua povera gerlina, taro qui, le tue botte ad aspettare. Tout est en italien, de toute façon. Tout est en italien. Toutes les notes légères, c'est un peu comme les voix un peu légères. C'est pas toujours de la comédie ou des choses drôles. Ça peut aussi être quelque chose de mensonger qui laisse suggérer des tas de choses. Le commandeur a été tué par Don Juan. Don Juan s'enfuit avec son valet. Ils sont dans la campagne. Et là s'élève une voix extraordinaire. Cette voix, c'est donc une soprano. Et on entend d'une façon très très puissante, comme je disais, jusqu'à la cinquième galerie, qui est très très haut dans l'opéra. On entend donc une femme qui crie son désespoir avant qu'on ne la voie. Et elle crie, voilà, si tu reviens encore vers moi, je vais faire un horrible scandale, je vais lui crever le cœur, je vais lui crever le cœur. Elle n'arrête pas de dire, livo cavare il cuore, je vais lui crever, lui percer le cœur. Ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Ouais, ça manque. Mais je comble beaucoup, beaucoup avec les partitions musicales. Beaucoup, beaucoup. Lire des partitions de Mozart, de Bellini, de Handel, c'est pas pour retrouver une ambiance, c'est pour retrouver des émotions. Voilà, je l'ai dit, je crois que c'est que pour ça. Ça me permet d'évacuer après une cigarette quelquefois, je suis... la vie continue. Et si je ne suis pas passé par ces émotions-là, j'ai un manque. Entre en scène maintenant cette femme qui s'avère être la dernière personne que Don Juan a séduite, Donna Elvira. Cette voix s'élève puissante, extrêmement féminine. Elle refuse d'avoir été séduite par cet homme. En même temps, quand elle chante, on sent une sorte de nostalgie de ce moment quand même violent qu'elle a vécu avec Don Juan. À la fois, c'est la haine de Don Juan et à la fois l'attirance de Don Juan. Elle a été séduite, abîmée, mais en même temps, c'était peut-être pas si moche que ça, quoi. Donc la voix s'élève et c'est pas explicable quand elle hurle après cet homme en disant qu'elle va lui percer le cœur. Elle est authentique quand elle chante, quand la voix s'élève, et à la fois elle ment. C'est tout ce qu'on ressent quand on connaît l'œuvre et qu'elle s'avance au milieu de la scène. Parce que nous-mêmes, je crois, enfin moi en tout cas, je ressens toujours cette ambivalence lorsque j'étais abandonné par quelqu'un que j'aimais. C'est à la fois d'être extrêmement en colère et en même temps avoir envie que les choses se répètent malgré tout. Le 20, le 21, le 22, j'ai marché, j'ai vu du soleil, j'étais bien, j'avais pas mal aux pieds. Non. Et je suis pas rentré. Je suis plus rentré. Quand j'ai perdu mon compagnon, je ne me suis pas dit qu'est-ce que je vais devenir, non, c'était limpide. Et je vis normal. C'est après que les choses sont arrivées en disant non pas qu'est-ce que je vais devenir, mais à quoi je sers. 20 ans d'épanouissement auprès de quelqu'un, c'est 20 ans qui s'arrêtent brutalement. Moi, je reste encore 3 ans à me poser cette question, sans voir personne, sans parler, sans. En végétant. Le chat meurt, bon, je décide d'arrêter aussi, il n'y avait plus de chat, plus rien qui me rattachait. C'est difficile de dire ça pour soi-même, mais j'étais vraiment carrément en détresse. Trop dormir, trop pleurer, mal manger. Trois photos dans mon sac, c'est tout ce qui me reste. Trois photos. Quatre photos. J'étais en short. J'avais des chaussures Zara rouges, un t-shirt, mon sac avec du papier, des clés, des trucs comme ça, et un sac avec plein de bouquins et de DVD à rendre à la médiathèque. Portefeuille, de l'argent, des conneries. J'ai mis à la médiathèque, j'ai rendu les bouquins, j'ai plié le sac de la médiathèque, je l'ai mis dans mon sac. Et je sais plus de tout ce qui s'est passé après. Je suis assis à la gare routière sur un muret, sans savoir qu'il y avait des tas de gens qui dormaient là. Il y avait le canal, je fumais une cigarette et quelqu'un est passé, s'est assis un peu plus loin et j'ai tendu une cigarette parce qu'il avait l'air un peu paumé, il devait peut-être être 4 ou 5 heures du matin. Il est venu prendre la cigarette. Voilà, je crois que c'est sans doute le 21 juin, dans la nuit du 21 juin au 22 juin, qu'il a commencé à se passer quelque chose, je pense. Alors, le gars que j'avais rencontré le 21 juin, donc dans cette fameuse nuit, à qui j'avais tendu une cigarette, est devenu mon binôme. Le binôme ne se choisit pas. Un peu, il se rencontre un peu par hasard. Ça marche ou ça marche pas. Souvent, c'est un échange de regards. Donc, il m'a dit où il dormait. Je ne sais même pas où c'était. Et ils m'ont emmené voir l'endroit où ils dormaient. Il y avait d'autres personnes qui dormaient là. Je ne pense pas avoir dormi, mais j'étais là cette nuit-là. Alors que je me sentais curieusement, vraiment curieusement, extrêmement calme, détendu. Je ne voyais pas du tout de quoi on pouvait avoir peur, vraiment. Maintenant, j'ai compris de quoi il avait peur, mais à l'époque, j'imaginais même pas que les gens se baladaient avec un couteau à la main ou des trucs comme ça. Vraiment pas du tout. J'ai pas choisi en fait, j'ai pas choisi. Un certain jour, c'est, je claque la porte et je pars, sans imaginer je vais devenir SDF ou que ce soit. Je pars, point barre. Après, c'est arrivé au bout de quelques jours, les mots SDF sont arrivés, pas tout de suite. Donc c'est pas un choix d'être SDF, c'est devenu une conséquence. Quand la conséquence, je l'ai assumée, c'était un choix de rester. C'était un choix. Après, ce choix s'est transformé en impossibilité de revenir en arrière. Donc, en obligation d'être SDF. J'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire, que j'ai un compte à rendre, ou que quelqu'un a un compte à rendre. Je sais pas trop. Donc conséquence, choix, obligation, choix, obligation. Quelle importance ? Quelle importance ? La vie continue. Ma vie continue. En fait, je deviens très à l'aise, détendu. C'est comme si je m'épanouissais dans un monde très à l'aise, très très à l'aise. Des gens viennent me parler. Quelque part, je suis respecté. On connaît mon prénom. On m'appelle dans la rue pour me dire bonjour. Chaque fois surpris, je dis bonjour Patrick. Je crois qu'il ne pas avoir entendu mon prénom pendant presque 3 ans, et tout à coup, des tas d'étrangers, super beaux, sympas, m'appellent par mon prénom. Je crois bien que pendant 3 ans, personne n'a prononcé mon prénom. Je crois bien. Oui, j'en suis sûr même. C'est sûr. Vraiment, presque tout de suite, je me suis senti mieux quand j'ai décidé de partir, de quitter ces 3 ans de mort en sursis, en quelque sorte. Et je crois qu'une des premières phrases que j'ai prononcées, presque complète, ça a été au bureau de tabac, où je me suis décidé à recommencé à fumer. J'ai donc dû demander une marque de cigarette particulière. Je crois que c'est une de mes premières phrases. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, mai. Xavier était là, mon binôme à l'époque. Moi, j'étais là. Je calcule parce que la nuit, je me faisais en sorte à ne pas avoir le lampadaire dans les yeux. Donc je dormais là. Et c'est là que je faisais ma gymnastique du soir pour ne pas avoir mal au dos. On dort là. Plusieurs jours, plusieurs soirs, on dort. Je remarque Damien qui dort toujours de mon côté. Je remarque la fermeture qui est du bon côté. Et moi, je dors toujours de ce côté, avec la fermeture du bon côté aussi. Il ne se passe rien, sauf qu'on se regarde beaucoup. Un soir, Xavier et moi arrivons ici vers 9h30, 10h sans doute. Et Damien est assis dans l'escalier, là, avec un gars qui s'avère être un Suédois, qui parle anglais, un Suédois très sympa, beau mec, blond, etc., qui fait la route. Le mec ouvre son sac à dos, sort des tas de nourriture, jambon, des choses qu'il a achetées au supermarché. Il sort de la vodka, il sort de la bière. Damien boit un peu, très peu. Xavier ne peut plus cacher ses élans vers l'alcool, picole pas mal. Et tous les deux se mettent là. Damien, à un moment, commence à parler de sa première femme. J'ai vachement envie de le toucher. Putain, j'ai vachement envie de le toucher. Et je commence à mettre la main juste sur l'épaule, des gestes. Et il répond vachement. En fait, après, c'est lui qui prend la main de vouloir me toucher davantage. Ils sont toujours les deux à discuter, qui se retournent de temps en temps pour me demander un truc dont on n'a plus rien à foutre. On ne les écoute même pas. On est en train de se faire une bulle. Il me saisit et il me fait jouir tranquillement, comme ça, avec les mains. C'est extrêmement intense. C'est un plaisir totalement oublié qui me tombe dessus. Et j'en redemande, et il en redemande. Toute la nuit, on a été comme ça, dans les bras l'un de l'autre. Lui dort sur mon épaule, je dors contre lui. Je ne sais pas si on a dormi ou pas. Voilà, première fois que ça s'est passé, c'était ici. Ce jour-là, je savais que j'étais complètement amoureux de Damien. Je peux même pas parler de redécouverte. C'est un peu comme si c'était la première fois de qui était violent d'une telle douceur. Wow. Aucun film pornographique ne peut raconter un truc pareil. Il faudrait voir un film avec des violons derrière, avec des bouquets de roses partout, mais ça n'a rien à voir non plus, c'est pas mièvre. C'est très sexuel, il y a une érection puissante et en même temps, il y a tout ce plaisir intérieur qui te prend par les tripes, tu vois plus rien du tout, il y a plus de... On voit rien, il y a plus d'extérieur, il y a juste quelqu'un qui est là et qui te fait monter ton plaisir. C'était très curieux dans la conversation avec Damien, c'est que j'ai jamais caché que je préférais les mecs aux nanas. Alors que Damien, dans son discours, avait un discours extrêmement hétéro, parlait de son ex-femme, de sa copine, mais je crois qu'il avait une profonde attirance pour les mecs. Il avait besoin de me caresser, les bourses, la verge, la patte. Je crois que toute la nuit, il m'a caressé la verge. C'est très très bizarre. C'est très bizarre. Les frontières de la sexualité sont très très floues dans la rue. De l'homosexualité sont très floues. C'est très très flou. En fait, le mec excité, qui n'irait que vers une femme ou vers un écran de télévision avec des femmes, dans la rue, se laisse volontiers toucher par un mec et répondra même à ce geste en touchant l'autre. Quoi. C'est... Là, tout à coup, dans ce monde, oui, c'est moins hypocrite, parce qu'on n'a plus rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de jeu d'hypocrisie à jouer. Il n'y a aucun rôle à jouer là-dedans. Il n'y a pas d'image écornée, il n'y a pas de comédie, je veux dire, c'est quelque chose, une sorte de libération du corps que les hommes vivent dès qu'ils sont dehors. Je ne sais pas si c'est le fait de dormir dehors ou de n'avoir qu'un sac sur le dos, ou effectivement, je me sens plus libre. Si un mec me mate, je suis prêt à laisser faire, tu me laisses caresser. Que, je ne suis pas devenu pudique. C'est sûr que je n'ai jamais créé, pendant toutes ces années, je n'ai pas créé une seule fois une relation, je n'ai pas provoqué la relation. Je ne suis pas allé dans les toilettes publiques. En fait, j'ai fréquenté personne, j'ai oublié mon corps, le plaisir. Et là, tout à coup, Tout était plaisir. Je vais pisser, il y a un mec à côté, il est prêt à me toucher. Damien me touche, je suis prêt à prendre mon pied. Et la réciproque est pareille, je vois un beau mec, je commence juste à m'approcher de lui, je laisse faire. Je veux dire, c'est complètement fou. Je redécouvre que je suis totalement disponible au plaisir. Et j'ai l'intention, quand je découvre ça, d'en abuser, de m'en servir. Ça me libérait de plein de trucs. J'ai changé de squat, je ne suis plus depuis une semaine sous l'auvent de la gare routière, bien que je sois en sécurité, bien que je m'y sente très à l'aise. Mais il y a un endroit un peu plus bas sur le boulevard Je ne sais plus comment il s'appelle, boulevard des Minimes, pardon. En fait, c'est une laverie, la laverie où je vais laver mon linge chaque semaine. Voilà, boulevard des Minimes. Et je suis rentré à 7 heures parce qu'il faisait non pas spécialement froid, mais j'avais besoin de me poser quelque part où il n'y avait personne pour pouvoir réfléchir à un truc ou deux. Je m'y suis senti très très bien, je m'y suis endormi sur le banc et je me suis dit pourquoi pas dormir cette nuit ici. Super, il n'y a personne, en plus c'est impeccable. Voilà, donc le soir vers 10h j'arrive là, je pousse la porte claque. Impeccable. T'imagines l'obscurité relative du lieu. C'est quand même obscur. La pièce est noire, mais il y a les lampadaires qui clairent suffisamment pour voir tout ce que j'ai vu finalement. Donc, je suis allongé ici. 23h, c'est-à-dire que je dors depuis un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et à un moment, je me suis réveillé. Et c'est là que je vois le jeune qui a un bonnet bleu. Jogging, juste un petit sac à dos comme le tien, pas de sac de couchage. Donc je vois ce jeune-là sortir et juste en face de là, donc sur le premier trottoir, il y a des prostituées qui se baladent toute la nuit. L'une s'installe toujours à peu près sur ce muret-là. Donc il va entreprendre cette nana ou discuter avec elle, son joint à la main, il ne pleuvait pas. Et les voilà tous les deux qui se radinent ici. Ils s'asseyent sur ce banc-là, je suis là. Sur ce banc-là, et il sort sa pochette
Il compte, c'est pas, à mon avis, c'est des billets très clairs, donc ça fait des billets de 10, ça fait le genre de truc à 30 euros, ça ne doit pas chercher bien loin. Elle prend l'argent, empoche l'argent dans son survêt, commence à se pencher sur lui, et je suis juste là à allonger les souffles. Il sort son sexe, et la nana commence à se pencher vers lui, commence à lui faire une fellation. Et lui, je trouvais plutôt beau mec, quoi. Et effectivement, même une fois qu'il a baissé son pantalon, je trouvais qu'il était vraiment très, très beau. Très bien monté, comme on dit, quoi. Et c'était super excitant, chaud. En fait, il regarde autour de lui tout en la laissant travailler. Il regarde autour de lui et évidemment que je l'ai vu et qu'il m'a vu. Et là, il se met encore plus à l'aise. Très exhibitionniste dans sa sexualité, très très exhibe, puisqu'il était à peine à 1m50 de moi. Et la nana était pas très belle, mais vraiment une professionnelle top. Hein. Ah oui, ça, la bouche, les mains, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Elle fait du vrai travail professionnel. Oui. Ça répond à la question où je me place parmi tous ces gens-là. Je me place où ils veulent que je sois. Quand on me parle d'un SDF qui a mal parlé, qui a gueulé ou qui a agressé verbalement un bénévole, je dis toujours au bénévole, ce SDF en question, il ne dort pas depuis combien de temps? Depuis combien de temps il accumule 1 heure ou 2 heures de sommeil par nuit? Que voulait-il vraiment dire en t'agressant? Est-ce que tu es capable de déceler la forme du fond de sa phrase? Un SDF parfois est tellement épuisé qu'il ne sait plus parler correctement autrement qu'en disant « va chier » ou en utilisant un vocabulaire qui n'est pas du tout celui qu'il utiliserait s'il était reposé, s'il avait bien dormi. Pareil, je me place avec lui. Lilian m'offre un café chez Paul. Et au moment où je passe, on prend ma commande pour un café, et quand Lilian donne sa commande après, on dit « la machine est arrêtée, on ne peut plus vous servir ». Un troisième client derrière dit « moi j'offre le café au client précédent », et la vendeuse continue en disant « on ne peut pas vous servir ». Je défends les SDF, même si Lilian est crade, même s'ils sont mauvais, il a le droit de boire un café chez Paul parce qu'il a de l'argent pour payer, il a le droit de m'offrir un café chez Paul sans qu'on lui dise de se laver. Là, je défends les SDF. Il y a des trucs trop injustes du quotidien qui font qu'un jour Lilian va aller chez Paul et va leur cacher la baraque parce qu'il en a ras-le-bol, qu'on ne veuille pas le servir, quoi.
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, la médiathèque ferme ses portes dans moins de 15 minutes. Merci de commencer à enregistrer vos prêts et vous diriger vers la sortie.
Je me pose des questions, à quoi je sers ? En fait, je me retrouvais dehors. C'était un peu suicidaire. Je sais pas comment dire ça.
Ça fait 10 ans, plus de 10 ans, que j'ai pris un médicament très important contre des maladies du pancréas. Et mon médecin, qui est un super médecin, avait dit que je ne pouvais pas rester 3 semaines sans le prendre, sans que ça devienne après, sans que ça prenne un cours du mauvais côté, irrémédiable. Bref, si j'arrête de prendre ces médicaments, je vais faire des pancréatites, des crises du pancréas, un cancer, etc. Et tout ça se finira tranquillement, sans douleur, grâce aux pilules de morphine, mais se finira. Donc c'est un petit peu... C'est carrément ce que j'avais programmé au mois de juin. Quand ça arrivera, ça arrivera. Et j'ai pas peur de ça du tout. Pas du tout. J'ai pas peur de ça. Non. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement vivant dans la mort, dans... Mais pas de vivant dans le sens un cœur qui bat, non, vivant dans le sens de animation, de mouvement, de chaleur, des choses qui bougent. Et ça, c'est assez beau. C'est assez beau. Même le matin tôt, allongé, je suis bien, les pieds au chaud. C'est pas un rêve du tout d'avoir les pieds au chaud, d'être bien allongé, confortable. Pas du tout, pas du tout. Je ne veux pas mourir dans un appartement, je ne veux pas mourir autrement que ma provenance sera dehors. Voilà. Et je ferai. Et je ferai.
De rue et d'amour. Un documentaire réalisé par Julien Baroguel avec Patrick Clément. Montage, Guizane Humeau. Musique, Don Giovanni de Mozart, orchestré par Carlo Maria Giulini et édité chez EMI Classics. Avec le soutien de la SCAM, Bourse Brouillon d'un rêve sonore et de la ville de Toulouse. Merci aux responsables et aux bibliothécaires de la médiathèque José Cabanis, à Joël Laverny et aux bénévoles de la Croix-Rouge de Toulouse, ainsi qu'à Ludovic Mepa, Benoît Bory, Emmanuel Tornero, Laure Nilus, Yamour Gogdouman et Michel Guérard.